Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Mon intervention ce soir a pour titre « La langue française n'existe pas ». Et j'ai ajouté entre parenthèses « L'anglaise non plus, d'ailleurs ». Cette parenthèse s'efforce d'être rassurante. Il ne s'agit pas d'attaquer nommément le français, mais de démontrer qu'aucune langue n'existe. Le français pas plus que l'anglais, le mandarin, l'allemand ou l'inuktitut. La parenthèse n'est donc pas seulement rassurante. Elle accentue aussi le caractère paradoxal de ma proposition. Comment, en effet, pouvons-nous penser que le français n'existe pas, alors même que nous en avons besoin pour poser la question ? L'existence de la langue française semble évidente, puisque je suis en train de la parler. C'est précisément l'évidence de notre rapport familier avec la langue que je vous propose d'interroger ce soir. Peut-être que nous avons l'illusion que la langue existe, parce que nous y sommes trop immergés. Je vais oser une image. Parler dans une langue, c'est un peu comme être un poisson rouge dans un bocal. On a l'impression de nager librement dans un milieu naturel parce qu'on ne voit pas les contours du bocal. Mais contrairement au poisson rouge, nous avons heureusement la possibilité sinon de sortir du bocal, du moins d'en prendre conscience et de garder la mémoire de son histoire, de sa constitution. Il y a au moins deux manières de cesser d'être comme un poisson rouge dans la langue. La première manière est de parler plusieurs langues. Et quand je dis langue ici, j'entends aussi bien ce qu'on enseigne à l'école comme une langue étrangère que toutes les autres langues qui habitent les langues principales, les patois, les dialectes, les argots. Toutes ces variétés et ces variations permettent de voir sa langue depuis un autre bocal et donc depuis le dehors, de prendre conscience de ses contours. J'étais il y a quelque temps dans un bar à vin à Bordeaux où j'ai commandé un pot et le serveur m'a instantanément répondu que nous n'étions pas à Lyon. Jusque-là, je ne m'étais jamais aperçue que je disais pot. Je ne voyais pas le mot pot. Ce que je voyais, c'est la bouteille dans laquelle on met les enfants. J'imagine que vous voyez très bien ce que j'appelle un pot. Un tout petit choc, pas plus intense que celui-ci, sur les parois du bocal, suffit à les épaissir suffisamment pour qu'on ne voit plus qu'elles. Soudain, le mot que j'utilise ne sert plus simplement à désigner quelque chose du monde, il se cogne à d'autres mots, il indique d'où je viens, il signale des points aveugles ou des zones fossiles dans ma langue. Ce type d'expérience tend généralement à renforcer le sentiment identitaire d'appartenance à la langue. On mesure ce qu'elle dit mieux que les autres, ce qu'elle ne sait pas dire, ce qui fait sa couleur particulière. Donc finalement, parler d'autres langues permet de prendre conscience des parois du bocal et de relativiser sa propre langue par rapport aux autres, mais cela ne montre pas forcément que la langue n'existe pas. Pour faire bouger les parois du bocal, le plus efficace est donc de recourir à la seconde solution. Cette seconde solution, c'est celle de la lecture de certains textes littéraires qui travaillent la langue de telle sorte qu'elle semble à la fois familière et étrangère, toujours transformée. Ce n'est pas facile de repérer ce travail des textes parce que les textes littéraires ne tiennent pas un discours sur la langue. Ils ne produisent pas, mettons, des énoncés scientifiques sur ce qu'est une langue ou sur ce qu'elle n'est pas, des énoncés qu'on pourrait isoler et localiser. Les textes littéraires, en d'autres termes, ne proposent pas une linguistique ni directement une politique de la langue, ils modifient ce que j'appelle un imaginaire. C'est cet imaginaire qui fait que nous sommes persuadés que la langue existe, et c'est en modifiant cet imaginaire que nous pouvons faire bouger les contours de la langue. Cela sera plus clair avec quelques exemples, et je vous propose de prendre l'exemplier que je vous ai distribué. Sur la toute première page de cet exemplier, vous avez une image de poisson rouge dans un bocal, et vous trouverez aussi des citations d'Henri Méchonic, qui est un théoricien du langage et de la traduction, qui est malheureusement mort en 2009, et qui est encore plus malheureusement assez difficile à lire, mais la citation que j'ai indiquée ici me semble lisible. Vous trouverez aussi une citation d'Édouard Glissant, qui parle d'imaginaire des langues. Je vous laisserai lire. Vous verrez qu'il explique qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'écrire dans une seule langue et de manière monolingue, et que l'écrivain travaille en présence de toutes les langues du monde. Je ne suis pas d'accord avec sa périodisation historique, mais je partage son enthousiasme pour un imaginaire qui pose la langue avec toutes les autres langues du monde et non contre elles. J'aurais d'ailleurs pu appuyer ma démonstration de ce soir sur la créolisation, mais c'est un autre parcours que j'ai choisi et je vous invite à le découvrir en prenant la page suivante. Là, vous pouvez voir une frise chronologique avec quelques repères. Pourtant, ce que je vous propose n'est pas une histoire de la langue française. Si vous voulez une histoire de la langue française, il en existe de très bien faites. Vous avez un certain nombre de références bibliographiques dans l'encadré. Ce que je vous propose, c'est une archéologie d'un imaginaire de la langue française qui est mon imaginaire. Sans doute que vous aurez d'autres dates, d'autres textes ou d'autres événements en tête, et il sera intéressant d'en discuter ensemble. Mais pour l'instant, je vais donc esquisser mon imaginaire de ce qu'est la langue française. Je commence par cette archéologie parce qu'elle permet de comprendre à partir d'où et contre quoi travaille l'imaginaire des textes littéraires que nous lirons ensuite. Mis à part les serments de Strasbourg, qui datent de 1842, l'un des premiers souvenirs que j'ai dans ma mémoire historique de la langue française se trouve dans le Pantagruel de Rabelais. Le titre complet, c'est, tenez-vous bien, les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Hypsodes, fils du grand géant Gargantua. Le texte paraît en 1532. De Pantagruel, nous avons gardé l'adjectif pantagruélique, qui rappelle l'énorme appétit de ce géant. Quand on le connaît un peu mieux et qu'on ne se laisse pas trop impressionner, on découvre qu'il a un cœur en or et peut faire un très bon ami, ce qui sera effectivement pour Panurge. Panurge, c'est celui qui, dans un autre livre de Rabelais, le Carlivre, a cette bonne idée de jeter un mouton par-dessus bord alors qu'il se trouve dans un bateau et tous les autres moutons suivent, d'où les moutons de Panurge. Bon, bref, laissons nos moutons, revenons-en à Pantagruel, où le héros, justement, rencontre Panurge au 9e chapitre. Vous avez dans l'exemplier, aux pages 2 et 3, un très long extrait que nous ne lirons pas, mais même un très rapide survol permet de mesurer la distance qui nous sépare de ce français du XVIe siècle. L'étrangeté, cependant, ne tient pas seulement à la distance historique avec cet état de la langue, mais aussi au fait que la majeure partie de ce long passage n'est pas en français. Il faut imaginer la scène. Panurge est en train de se promener du côté du faubourg Saint-Antoine, à l'époque c'est encore un peu en dehors de la ville, précise Rabelais, et il voit venir depuis le pont de Charenton un pauvre diable qui a l'air fort sympathique et complètement déguenillé dans un état absolument pathétique. On finira d'ailleurs par apprendre qu'il vient de Turquie où il a été fait prisonnier, mais au moment où il arrive et où Pantagruel lui demande qui il est, on ne comprend absolument rien et pour cause. Vous pouvez voir dans les 13 alinéas que j'ai numérotés la manière dont Panurge répond à Pantagruel en changeant à chaque fois de langue. Alors là, vous pouvez vous livrer au jeu qui consiste à reconnaître l'allemand, l'italien, l'écossais, le basque, le hollandais, le danois. On trouve aussi trois langues anciennes, le grec, le latin, l'hébreu et deux langues imaginaires. Si vous regardez le 6e alinéa, vous avez du lanternois et on trouve aussi de l'utopien. À chacune de ces réponses, Panurge se contente de demander à manger. Mais Pantagruel n'y comprend goutte. Le coup de force final consiste à montrer à quel point l'usage du français ne va pas de soi, puisque Panurge commence par décliner 13 langues avant d'en arriver au français. Et en même temps, qu'il s'agit d'une langue universelle, puisque ce sera finalement la langue de la compréhension. Si vous regardez au 14e alinéa, mon ami, dit Pantagruel, ne savez-vous parler français ? Si fait, très bien, Seigneur, répondit le compagnon, Dieu merci. C'est ma langue naturelle et maternelle, car je suis né et ai été nourri jeune au jardin de France, c'est Touraine. Vous remarquerez que Panurge déclare que le français est sa langue naturelle et maternelle, et que la région, la Touraine, importe encore au moins autant que l'appartenance nationale. Le jeu avec la langue devient plus sérieux au fur et à mesure que le siècle avance. La promotion du français devient plus directement politique avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui impose le français comme langue de droit et de l'administration française. Là, on est en 1539. Un peu plus tard encore, et là, vous avez l'extrait qui se trouve à la quatrième page, mais Joachim du Bellay. Joachim du Bellay naît en Anjou en 1622. C'est avec Ronsard l'une des étoiles des poètes de la Pléiade. Il signe un manifeste intitulé « Défense et illustration de la langue française ». Ce manifeste est en accord avec les objectifs de François Ier qui souhaite donner des lettres de noblesse aux Français. Du Bellay a donc conscience de participer à fabriquer une langue, à la fois comme poète et comme théoricien. J'ai mis dans l'exemplier un court extrait du premier chapitre de la défense et illustration de la langue française qui montre bien que le français est encore en voie de constitution et que son imaginaire reste ouvert. Si vous regardez le texte, vous rencontrerez dès la troisième ligne ou quatrième ligne l'image de la tour de Babel sur laquelle je reviendrai la semaine prochaine. Mais Du Bellay n'en reste pas là. Il insiste pour préciser que les langues ne sont pas des espèces naturelles en façon d'herbes, racines et arbres, je le cite, et qu'elles relèvent, je le cite à nouveau, du seul artifice et industrie des hommes. Cette précision est importante parce qu'elle assure l'égalité de toutes les langues, dont aucune ne peut être considérée plus faible ou moins riche que les autres par nature. Même s'il s'agit de défendre le français contre les autres langues, notamment contre le grec et le latin, qui jouissent encore d'une immense supériorité, mais aussi contre les langues européennes, elles aussi en voie de constitution à l'époque. Ce que Du Bellay ne dit pas, en revanche, c'est qu'il s'inspire directement d'un autre manifeste, paru 7 ans plus tôt en Italie, le Dialogue des langues de Sperone Speroni. Il est assez amusant de voir ce Du Bellay se contente par passage entier de traduire de l'italien au français en transposant l'importance de la défense italienne pour montrer l'importance de la défense de la langue française. Si le français cherche à s'affirmer contre les autres langues, c'est donc un contre qui est aussi une relation de très grande proximité, comme lorsqu'on se trouve tout contre quelque chose ou quelqu'un. Pour affermir le français, le siècle suivant va chercher à le normaliser, on dit encore à le grammatiser et à l'institutionnaliser, notamment par la création de l'Académie française, fondée par Richelieu en 1635. Un auteur considéré aujourd'hui comme aussi classique que Corneille, que vous voyez apparaître en bas de la page 4, juste après Du Bellay, suscite à l'époque des querelles sur les conventions du théâtre, mais aussi sur la norme du bon français. Une pièce comme le Cid, dans laquelle se trouve le vers que j'ai cité, « Rodrigue as-tu du cœur », sera en partie réécrite par Corneille pour se conformer aux règles dictées par l'Académie, ce qu'on oublie aujourd'hui quand on enseigne Corneille dans les classes de français. Dans l'exemplier, vous trouverez quelques vers de Boileau qui racontent cet épisode de la querelle du Cid et qui montrent comment l'imaginaire de la langue devient prescriptif et normatif. Il y a soudain de bonnes et de mauvaises manières de parler le français. Il ne s'agit plus simplement d'essayer de fabriquer la langue. Sur la page 5 de l'exemplier, vous trouverez l'une des affirmations les plus célèbres, sans doute, à propos de la langue française contre toutes les autres langues. Je cite Rivarol, « Ce qui n'est pas clair n'est pas français, ce qui n'est pas clair est encore anglais, italien, grec ou latin. » C'est la dernière phrase de l'extrait que je vous ai proposé et qui est tirée du discours sur l'universalité de la langue française que Rivarol a prononcé en 1789, à l'Académie de Berlin. Cette clarté caractéristique du français, selon Rivarol, viendrait de son organisation syntaxique, ce qui doit vous rappeler ce que nous avons vu avec Barthes il y a déjà 2 semaines, quand il qualifiait la langue de fasciste. Le ton de Rivarol, vous l'entendez, est radicalement différent de celui du Du Bellay. Cette fois, le contre est vraiment dans l'opposition. il n'y a plus de tout contre qui tienne. Après la Révolution, et ce sera la dernière étape de cette archéologie d'un imaginaire de la langue, la standardisation de la langue devient une priorité absolue. Vous pourrez lire dans le rapport de l'abbé Grégoire toute l'ambivalence qu'il y a à vouloir imposer une langue à la nation naissante au nom de la liberté. La violence du verbe qui apparaît dès le titre, rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française. La violence donc de ce verbe, anéantir, est difficilement soutenable, mais Grégoire met en avant, je le cite de nouveau, l'usage unique et invariable de la langue de la liberté. Son idée, et celle des révolutionnaires, c'est qu'il faut une langue commune, suffisamment stable, pour pouvoir offrir à tous les citoyens de jouir de leurs droits démocratiques. Cette petite archéologie subjective montre comment la langue se définit progressivement en se distinguant d'autres langues et en unifiant les manières de parler à l'intérieur d'une même langue. Mais au départ, il s'agit bien d'une fabrication, même si les enjeux nationaux ont naturalisé les frontières au point qu'elles semblent aujourd'hui aussi invisibles que les parois d'un bocal. Puisque nous en sommes revenus au bocal, il est temps de passer aux textes qui vont nous permettre d'en modifier les contours, comme je vous l'ai promis en introduction. Vous pouvez donc prendre la piste de l'exemplier qui s'ouvre avec le titre « Imaginaire hétérolingue ». Je qualifie cet imaginaire d'hétérolingue pour insister sur la différence, davantage que sur la multiplicité, comme quand on parle de plurilinguisme. Et parce qu'il ne s'agit pas simplement de penser la coexistence de différentes langues, mais la différence au sein même de la langue, du dedans de la langue elle-même. Mais là encore, ce sera plus simple avec des exemples. Nous allons donc partir en voyage, parcourir différents textes que vous pouvez localiser sur la carte qui se trouve dans l'exemplier et qui est décentrée, bien sûr, car l'expérience que nous allons faire va nous faire perdre nos repères familiers et nous apprendre à ne plus nous croire au centre du monde. Je commence au Québec, puisque j'en reviens et que c'est pour cette raison que j'ai manqué la séance de la semaine passée. En 1886, Octave Trémazie écrit à l'abbé Casgrain, et voici ce qu'il écrit. Je lis avec. Plus je réfléchis sur les destinées de la littérature canadienne, moins je lui trouve des chances de laisser une trace dans l'histoire. Ce qui manque au Canada, c'est d'avoir une langue à lui. Si nous parlions Iroquois ou Huron, notre littérature vivrait. Malheureusement, nous parlons et écrivons d'une assez piteuse façon, il est vrai, la langue de Bossuet et de Racine. En réalité, la difficulté rencontrée par les écrivains québécois est au moins double. Il y a le fait de se considérer soi-même comme un variant français, c'est ce qu'écrit Gaston Miron, mais il y a aussi le fait qu'au Québec, le français n'est pas seul. Il lutte contre la présence hégémonique de l'anglais. J'aimerais que nous écoutions ensemble les premières strophes d'un poème manifeste de Michel Lalonde, Speak White, qu'elle a lu en 1968 et dont on trouve des enregistrements sur Internet. J'ai envie que nous l'écoutions pour faire résonner sa voix et sa manière de parler non pas en français mais un français et aussi un anglais qui est identifié comme la langue de l'oppresseur, des contremaîtres, vous l'entendrez, et même du colon, puisque le titre « Speak White » reprend une injonction des Canadiens anglophones à l'égard des Québécois francophones et rappelle l'idée que les Québécois seraient les nègres blancs d'Amérique. Je cède la parole à Michel Lalonde avec notre fabuleux dispositif.
Speak White. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak white. Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nebiga. Speak White, parlez de choses et d'autres. Parlez-nous de la grande charte, ou du monument à Lincoln, du charme gris de la Tamise, de l'eau rose de la Potomac. Parlez-nous de vos traditions, nous sommes un peuple peu brillant, mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous really speak white, quand vous get down to brass tacks, pour parler du gracious living, et parler du standard de vie, et de la grande société, un peu plus fort alors, speak white, haussez vos voix de contremaître, nous sommes un peu durs d'oreille. Nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak white and laugh.
Le texte continue, mais nous... Vous avez pu entendre dans la dernière strophe une dénonciation à la fois culturelle, économique et sociale de la domination des anglophones sur les francophones et les revendications à la fois poétiques et politiques de ces derniers. Les deux vers qui précèdent la dernière strophe qui apparaissent sur la page 7 de cet exemplier rappellent le titre adressé par les Canadiens anglophones aux Québécois francophones. Il y a une séparation très nette entre un « nous » et un « vous » qui désigne toujours l'autre. Et la signification donc de ces deux vers, donc quand vous nous dites vraiment de parler blanc et quand vous en venez au fait, quand vous « get down to brass tacks », pour nous parler de quoi ? D'une domination économique qui laisse les Québécois francophones dans une situation d'infériorité puisque eux se trouvent au plus bas près des machines qui les rendent durs d'oreilles. J'insiste sur cette image des contremaîtres et des machines parce que nous allons la retrouver tout de suite. Beaucoup plus récemment, en 2001, Marco Micone, qui est un dramaturge d'origine italienne arrivé à Montréal à 13 ans, publie un texte qui va faire un véritable scandale et qui s'intitule non pas « Speak White » mais « Speak White ». Non pas « Parler blanc » mais « Parler quoi ». Et ce texte fait scandale parce qu'il donne à entendre que les francophones québécois sont à leur tour devenus coupables d'être sourds à toutes les autres langues qui habitent le Québec et aux situations de domination culturelle, sociale, politique et économique de tous les immigrants qui arrivent. Le ton de colère de Michel Lalonde n'a pas beaucoup changé. On le retrouve dans le texte de Marco Micone et vous avez le texte en entier. Vous pouvez voir en bas de la première colonne comment parlez-vous dans vos salons huppés ? Vous souvenez-vous du vacarme des usines and of the voices des contremaîtres ? You sound like them more and more. C'est cette phrase qui a le plus fait scandale, d'une part par sa signification. J'imagine que vous comprenez suffisamment bien. Hein. Maintenant, on entend, je traduis, la voix des contremaîtres, vous parlez comme eux de plus en plus. Ce qui a fait scandale, c'est donc cette accusation renversée aux Québécois francophones de parler de plus en plus comme les Canadiens anglophones et surtout le fait d'avoir traduit en anglais là où Michel Lalonde précisément écrivait en français pour dénoncer la présence de l'anglais. Il y a donc là tout un renversement et tout un travail qui, aujourd'hui encore, ne fait pas consensus au Québec. Et l'histoire ne s'arrête pas là, parce que comme je vous le racontais tantôt, on dirait au Québec, j'en reviens. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la révolte des étudiants qui sont en grève depuis un semestre contre la hausse des frais de scolarité, mais pas seulement, c'est aussi contre toute une politique qui modifie radicalement le système de l'enseignement et la mission, la fonction même de l'université. On parle parfois de printemps érable pour désigner cette lutte des étudiants québécois. Eux-mêmes s'identifient de préférence plutôt aux premiers habitants du Québec et du Canada, qu'on n'appelle pas les Indiens là-bas, mais les Premières Nations ou les Autochtones, et Speak White devient Speak White, devient Speak Red. Vous pouvez trouver une vidéo sur YouTube qui est exceptionnelle, avec un montage polyphonique d'une, je sais pas, cinquantaine d'étudiants peut-être, dont la caractéristique commune est de porter tous sur leur veste un petit carré rouge ainsi, qui signifie le soutien aux revendications sociales. Ceux qui ne soutiennent pas les revendications sociales portent un petit carré vert, et là c'est la lutte. Speak Red est donc un manifeste des étudiants québécois. Le texte est de Catherine Côté-Ostigui et il est bien évidemment partout précisé que c'est une inspiration de Speak White, parce que parmi les raisons du scandale qui ont soulevé une grande partie des francophones québécois contre le texte de Marco Miconet, il y a le fait qu'on l'a accusé d'avoir plagié Michel Lalonde, comme s'il n'avait pas pensé que son Speak White était une réponse au Speak White de départ. Nous quittons le Québec et en espérant ne pas occasionner un jet lag et un choc thermique trop important, nous atterrissons en Côte d'Ivoire pour retrouver Amadou Kourouma. Vous allez voir, finalement, on ne va pas très loin, parce que le premier texte d'Amadou Kourouma, celui qu'il a écrit avant d'avoir le prix des lycéens, avant de devenir relativement connu en France et publié au Seuil. Ce premier texte, donc, Les Soleils des Indépendances, n'a jamais trouvé d'éditeur en France. Il a été publié pour la première fois à Montréal. Le Seuil a racheté les droits 2 ans plus tard. Le texte s'appelle Les Soleils des Indépendances. On soupçonne déjà que derrière un mot familier se cache peut-être une signification qui ne correspond pas très exactement à l'acception du terme qu'on connaît. Comment est-ce que ces soleils, au pluriel, pourraient évoquer l'astre qui brille dans le ciel, et en quoi s'agirait-il de soleil des indépendances? Tout le texte travaille cette double signification du soleil qui brûle dans le ciel et qu'on reconnaît, et une autre définition implicite des soleils qu'on finit par comprendre comme étant une manière de signifier l'ère des indépendances, l'époque des indépendances. Et au fur et à mesure que le terme apparaît dans le texte, on voit en surimpression ces deux significations en permanence. Ça, c'est juste pour le titre. Voici la première phrase du roman, délicieuse, je vous la lis. Il y avait une semaine qu'avait fini dans la capitale Kone Ibrahima de race malinké, ou disons-le en malinké, il n'avait pas soutenu un petit rhume. Vous voyez le coup de force qui consiste à écrire malinké en français. Nous sommes en train de dire du français, et pourtant, ça n'est plus notre langue. C'est du malinké que nous lisons ici. Amadou Kourouma, cependant, quand il dépose sa plume d'écrivain pour reprendre une plume de critique, ou pire encore, quand il répond aux journalistes, continue à reconduire un imaginaire de la langue qui représente une clôture des frontières de la langue et donc la nécessité d'entrer en lutte contre elle, de tordre le cou à la langue. Voici par exemple ce qu'il dit à René Lefort et Moreau Rossi. Vous pouvez retrouver ça sur la page web de l'UNESCO. Il n'est pas étonnant que nous ayons parfois le sentiment de nous enliser quand nous utilisons le français pour décrire notre vie et notre univers psychologique. La langue française est issue d'une civilisation catholique et rationaliste, ça se voit dans sa structure, dans sa façon de découper et d'exprimer la réalité. Influencée par une spiritualité fétichiste, notre langue est plus proche de la nature. Vous percevez le danger qu'il y a dans ce type d'affirmation qui rappelle de loin Rivarol et qui tend, sous couvert d'une différence culturelle, à essentialiser des différences et à faire que les identités semblent devenir incommensurables. On a l'impression qu'il n'est même plus vraiment possible de rentrer en dialogue, tellement les langues incarneraient des identités essentiellement différentes. Sur le plan littéraire, encore une fois, il opère fort différemment puisqu'il parvient à faire à l'intérieur de la langue française résonner une autre langue et il y parvient très bien. Je pense que ça fait partie, pour revenir en écho sur une des discussions qu'on avait il y a 2 semaines, de l'une des grandes différences entre les écrivains postcoloniaux, pour être vraiment extrêmement large, de langue française et les écrivains postcoloniaux, toujours aussi largement, de langue anglaise, c'est qu'ils semblent avoir réussi à élaborer, avoir hérité, disposé d'eux, selon les cas, d'un imaginaire beaucoup plus souple de la langue. C'est le cas, par exemple, de Kensaro Wiwa, que j'ai mis en contrepoint sur cette même page, qui est l'auteur de livres pour enfants, de séries télévisées et d'un roman, Sosa Boy, magnifiquement traduit en français par Samuel Milogo et Amadou Bissiri. Vous voyez plusieurs couvertures ici, 3 en fait. La première correspond à une réédition du texte original en anglais. La deuxième couverture, on ne voit pas très bien parce que c'est un peu petit, c'est la publication en format poche chez Babel, chez Actes Sud, de la traduction française. Et si vous pouviez lire, vous liriez que c'est traduit de l'anglais pourri du Nigeria, parce que l'anglais de Saro Wiwa, c'est du Rotten English. Rotten English, ça veut vraiment dire de l'anglais pourri. C'est une langue imaginaire qui n'existe que dans ce livre et qui revendique sa pourriture. L'histoire raconte la trajectoire de Méné, un jeune garçon soldat pris dans l'épouvante de la guerre du Biafra, qui raconte son histoire à la première personne et qui n'a jamais appris l'anglais. Il ne parle pas non plus véritablement le pidgin du Nigeria, c'est une langue au Nigeria, il ne parle pas non plus l'anglais standard du Nigeria, qui est l'anglais qu'on parle à l'université par exemple, à Lagos, très 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 différent de l'anglais de Londres. Il ne parle pas non plus Kana, qui est la langue maternelle de Sosa Boy. Il ne parle pas non plus aucune des 400 langues qui existent au Nigeria, mais cet anglais pourri que Samuel Milogo et Amadou Bissiri ont réussi à rendre en inventant un français aussi différent que le texte de départ. Pour vous donner une idée, j'ai mis un tout petit extrait du premier chapitre, et comme je ne fais pas dans l'ordre, c'est en bas de la page. Je vous le lis en anglais déjà, après je le lirai en français. Number one. Although everybody in Dukana was happy at first. All the 9 villages were dancing and we were eating plenty maize with pear and knocking tori under the moon. Absolument. Je vous le lis en français. Numéro 1. Quand même, chacun était heureux dans Dukana d'abord. Dans les 9 villages, on dansait et on mangeait maïs avec ananas en pagaille et on racontait des histoires dans Clair de Lune. Ce que je trouve remarquable dans cette traduction, c'est qu'elle ne se contente pas de transposer dans du français petit nègre, ce qui serait une catastrophe intégrale, une vraie création littéraire que constitue ce Rotten English. Et qu'il faut, pour s'acclimater à cette langue, s'installer peu à peu dans le roman, faut vraiment prendre le temps de passer la barrière que constituent les premières pages pour, peu à peu, parvenir à cesser de ne pas comprendre d'abord pour lire l'histoire et arrêter de se référer sans cesse au glossaire. Puisqu'il y a un glossaire à la fin du roman, il y a un glossaire dans le texte de départ déjà et il y a un glossaire dans le texte d'arrivée. Et ce qui est incroyable, c'est que pratiquement aucun des mots, si on les prend à la suite dans la colonne de gauche de ce glossaire, n'appartient à la même langue. D'ordinaire, quand on a un glossaire, on a une langue du côté gauche et une langue du côté droit. Et voilà, sur le côté gauche, vous avez toute une constellation de langues différentes et du côté droit, vous avez parfois une traduction, parfois c'est écrit intraduisible, parfois on dit on ne sait pas trop, parfois c'est encore dans une autre langue et donc ça crée des effets de défamiliarisation constante. C'est une lecture que je ne saurais trop vous recommander. Elle est pour le moins étonnante, j'en conviens. Pour le coup, je reste encore un petit peu sur cette page, je vous vois tous tourner. Saro Wiwa a un imaginaire de la langue anglaise qui n'est pas du tout le décalque de celui qu'a Kuruma de la langue française. Et j'ai mis, au-dessus du petit extrait que je viens de vous lire, un extrait de la préface qu'il écrit dans le roman, où il se réfère à 3 linguistes, Platt, Weber et Ho, qui ont écrit un ouvrage sur les nouveaux anglais avec cette double transgression de décliner la langue au pluriel, the new anglishes, et d'enlever la majuscule. Parce que vous savez qu'en anglais, tous les noms de pays, de langues, prennent une majuscule. On écrit English ou français pour la langue française avec un E, un F majuscule. Eux parlent de new anglishes sans majuscule et au pluriel. L'idée étant de montrer, je cite, la souplesse de la langue anglaise. Et là, je cite Sarah Wiwa citant les linguistes. Dans certains pays, les nouvelles formes de l'anglais ont donné naissance à une gamme bien définie de différentes variétés en étroit rapport avec le milieu socio-économique et les antécédents scolaires de leurs locuteurs, sans qu'il y ait cette fois nécessité d'aller contre la langue, puisque finalement, il suffit d'imaginer différemment pour pouvoir en faire autre chose. Et la troisième couverture, puisque j'avais pas évoqué ça, que vous voyez sur l'exemplier, c'est l'édition qu'on trouve aujourd'hui, depuis un an et demi, deux ans peut-être, en Afrique francophone, parce qu'Actes Sud a cédé les droits de la traduction à l'Alliance des éditeurs indépendants, qui ont donc, avec une maison d'édition installée à Blida en Algérie, pu faire des éditions à moindre coût qui circulent. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me semble très important. L'imaginaire de Sarah Wiwa n'est pas simplement un imaginaire de la langue, c'est l'un des seuls auteurs africains à avoir créé sa propre maison d'édition et à avoir publié depuis le Nigeria. Donc là, il y a une aventure aussi de l'objet livre qui est assez réjouissant, puisque le livre a été publié au Nigeria, réédité depuis aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre. Les traducteurs ont le droit à des photocopies du texte de départ pour travailler. C'est aussi, ça il faut le mentionner, l'une des premières fois qu'un texte d'un auteur africain anglophone est traduit par des écrivains africains en Afrique. Samuel Milogo est à Ouagadougou, au Burkina Faso, et à Madoubi-Siri en Côte d'Ivoire. Et puis le livre est reparti par l'Alliance des éditeurs indépendants et il est désormais diffusé en Afrique francophone. Donc voilà, ça c'était pour Ken Saro Wiwa dans le texte et en français. Et puis nous allons faire encore un grand saut pour arriver ici, maintenant, et retrouver Gerasim Lucas, qui est un poète né à Bucarest en 1913 et dont la majeure partie de l'œuvre a été publiée et écrite en français. De Gerasim Lucas, j'ai l'impression qu'il ne faut pas dire grand-chose, il faut l'écouter lire lui-même son texte. On recommence. Pa, 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 le pa, pa, le faux pa, le pa, 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 le pa, le mauvais, le mauvais pa, 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 le pa, le pa, pa, le mauvais pa, pa, le mauvais, le pa, 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 passe, pa, pa, passe, passe, passe. Il passe, il pape, il passe, le pas du bas du pape sur le pape du bas du passe, 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 passe-le sur le pas, le passi, 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 pisse sur le pape, sur papa, sur la pipe du papa du pape, pisse en masse, passe, 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 passe. Le tout pour arriver à dire je t'aime passionnément. Ça prend un peu plus d'un quart d'heure. On arrive à passionnément. Cet imaginaire est donc tout à la fois désopilant, contestataire, mais aussi relativement inquiétant, puisqu'il semble ne plus rester aucun pan de langue stable. La langue peut toujours fourcher, bégayer. Elle redevient un organe du corps avant d'être un instrument de signification. C'est donc une langue sensible qui ne fait pas toujours sens. C'est pourtant toujours la même langue, mais c'est une autre manière de la parler. Gerasim Lucas est l'un des auteurs qui a le plus profondément marqué la pensée de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, qui considère qu'il a inventé un prodigieux bégaiement, là je les cite, qui consiste à être bègue, non pas simplement dans sa parole, mais bègue du langage lui-même. C'est par le détour de Deleuze et Guattari que j'en viens pour finir à la langue anglaise ou américaine, puisqu'ils affirment dans Mille Plateaux qu'aucune langue ne peut devenir majeure ni s'imposer internationalement sans être travaillée du dedans, c'est-à-dire sans devenir autre. Et je vais prendre le temps de vous lire la dernière citation qui se trouve à la fin de votre exemplaire, page 10. Plus une langue a ou acquiert les caractéristiques d'une langue majeure, plus elle est travaillée du dedans par des variations continues qui la transposent en mineure. Il est vain de critiquer l'impérialisme mondial d'une langue en dénonçant les corruptions qu'elle introduit dans d'autres langues. Par exemple, la critique des puristes contre l'influence anglaise, la dénonciation poujadiste ou académique du franglais. Car une langue comme l'anglais, l'américain, n'est pas mondialement majeure sans être travaillée par toutes les minorités du monde, avec des procédés de variation très divers. Manière dont le gaélique, l'anglo-irlandais, fait varier l'anglais. Manière dont le black English et tant de ghettos font varier l'américain, au point que New York est presque une ville sans langue. Et là, j'ai sauté parce qu'il me semble que la fin de ce texte permet de revenir sur nos extraits pour montrer qu'il ne s'agit pas simplement d'exemples ou de cas isolés qu'il faudrait ramener à une norme, mais qu'il est véritablement possible d'étoiler la norme à partir de ces exemples. Je les cite donc. Il n'y a donc pas deux sortes de langues, mais deux traitements possibles d'une même langue. Tantôt l'on traite les variables de manière à en extraire des constantes et des rapports constants, tantôt de manière à les mettre en état de variation continue. Ça me semble-t-il très exactement ce que fait l'imaginaire hétérolingue, et ma foi, s'il permet de comprendre Deleuze et Guattari, il aura déjà fait pas mal la job. L'imaginaire hétérolingue invite donc à entendre toutes les langues dans chaque langue. Il n'est pas facile à saisir. Et nous sommes passés par de multiples textes pour essayer, peu à peu, d'en cerner les constellations. Je pense que cet effort vaut la peine au moins à deux niveaux. En France, d'abord, c'est le moment, me semble-t-il, d'unir toutes nos forces pour guérir de l'idéologie d'identité nationale et inventer des modèles d'intégration qui ne riment pas avec assimilation ni avec exclusion. Je suis convaincue que l'hospitalité offerte aux autres langues, et plus encore, la capacité à vivre comme un étranger dans sa propre langue, constitue une base solide pour des politiques que nous avons à inventer tous ensemble. Au niveau de l'Europe, ensuite, j'en parlerai davantage la semaine prochaine, place Tatonnet. La constitution d'une communauté non homogène, mais capable de dialoguer, c'est-à-dire aussi de ne pas toujours être d'accord, exige sinon une langue commune, du moins une réflexion sérieuse sur la manière de négocier avec la différence des langues. Bref, la question que je poserai la semaine prochaine est celle de savoir s'il est possible d'imaginer Babel heureuse. Et en attendant, j'attends avec impatience vos questions. Je vous remercie.